Merci pour ces informations et voici comment nous avions préparé une précédente émission. Salut les amis.
Salut Charline.
Ah, tiens, il est pas là Guillaume.
Non, il est avec Eric Ciotti.
Oh la chance.
Bon, alors c'est qui l'invité?
Lucien, Jean-Baptiste.
Ah, trois, hein, ils sont trois.
Mais non, c'est Lucien, Jean-Baptiste.
Ah, Jean-Baptiste, ils sont deux.
Non, il est tout seul.
Bah, il est tout seul, mais on reçoit lequel des deux?
Bon, tu sais quoi, laisse tomber, voilà. Est-ce qu'on a des sujets?
Oui, il y a un super sujet dans la croix.
Ah,
sur les vêtements, ce que ça dit de nous.
Ah, oui, alors dit comme ça, je trouve ça intéressant.
De moi, ça dit surtout que j'aime les fleurs.
Oui. Dis donc, il faudrait peut-être attendre Guillaume, non?
Bon. Guillaume sur les vêtements, oui.
Ça dit de lui qu'il n'accorde aucun intérêt à la mode.
Attends, ça dit des choses quand même, parce que je me rappelle dans son portrait pour Libération, là, le journaliste, il avait écrit que Guillaume porte une chemise froissée, tu vois.
C'est pas quelqu'un de froissé, Guillaume.
Charline, tu n'es pas précise. Ah, le journaliste a écrit qu'il portait une chemise fatiguée.
Ah oui, ça c'est Libé, c'est des poètes.
Ouais, mais il est pas fatigué, Guillaume.
Non, mais il est fatiguant,
Guillaume. Oui, voilà, ça dit quelque chose, quoi.
Et toi, Charline, alors
moi, j'aime bien mettre des salopettes, par exemple.
Ça dit quoi de toi, ça
Ça me semble clair, mais faut décomposer le mot, salopette.
C'est élégant, Alex, bravo, c'est élégant. Bon, écoutez, en tout cas, c'est un très bon sujet, puisque tout le monde a un truc à dire sur les vêtements.
Oui, mais si ça tombe, ils s'en prêtent même entre eux, les gars.
Mais qui ça?
Mais Lucien et Jean-Baptiste.
J'en peux plus. Non, je vais me chercher un café, là.
Bon, moi, j'ai toujours pas compris cette histoire de salopette.
Mais décomposer le mot.
Sale, je comprends, mais opette, je vois pas.
Tu demanderas à Lucien.
Ouais, Jean-Baptiste.
Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui découpe l'actualité n'importe comment, un petit peu comme quand on picole en faisant la cuisine. Et voici les deux invités qui vont déguster. Le réalisateur Lucien Jean-Baptiste. Avec lui, on a devisé sur le départ de Barack Obama de la Maison Blanche. Et on s'était posé cette question, qu'est-ce que les vêtements racontent de notre personnalité? Et on poursuivra avec l'actrice Aïssa Maïga pour revenir sur la surprise créée par Benoît Hamon, le candidat du Parti Socialiste. Et on réalise toujours pas. Et on se penchera avec elle sur la mixité à l'école, toujours freinée par la carte scolaire. Alex Vizorek,
Charline Vanhoenacker,
qui vient en renfort caisse aujourd'hui dans l'émission.
Eh bien, j'ai du beau monde, j'ai du Pablo Mira qui nous parlera d'infidélité. Je vais découvrir ce que c'est, je ne connais pas le concept. Guillaume Meurice était rendu à la manif anti-IVG, évidemment un bon endroit pour lui. Mélanie Bauer nous parlera de rap marseillais et Hippolyte Girardot du départ des Obama de la Maison Blanche et donc de la arrivé des Trump et on termine comme tous nos meilleurs moments avec un petit Frédéric Fromet.
On commence par le menu.
Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout.
Alors Lucien Jean-Baptiste, votre nouveau film, il s'appelle « Il a déjà tes yeux ». Il s'agit d'un couple de jeunes français de la classe moyenne.
C'est notamment... Excusez-moi. C'est bien. Bah, d'habitude, on dit un couple de noirs, mais là, c'est bien. Il y a un joli détour.
Ah, c'est France Inter, monsieur. Attention, c'est pas RMC ici.
Oui, on est
moi,
bien. Excusez-moi.
C'est comme ça que je le prends. C'est-à-dire, il y a Aïssa Maïga qui joue votre charmante épouse. Vous jouez dedans, Lucien Jean-Baptiste, bien sûr. Il y a aussi Vincent Elbaz, Zabou Bretman, Michel Jonas. On citera les noms des autres acteurs tout à l'heure parce qu'ils sont formidables. C'est donc un couple de jeunes français de la classe moyenne. Un Antillais, une Sénégalaise, qui accepte d'adopter un bébé blanc.
Oui.
Et ça, c'est plus difficile de le faire accepter aux parents noirs de la maman, qui semble intégrée, mais assez traditionnelle quand même. Mm-hmm. Alors, ce qui est assez marrant au départ, c'est qu'il y a déjà l'employé de l'institution qui vous confie l'enfant, qui est une sacrée pimbèche interprétée par Zabou Bretman, qui dit à un moment au début du film à son mari, « Mon boulot, c'est pas de faire changer les mentalités ». Eh bien, j'ai l'impression que le vôtre, si, Lucien Jean-Baptiste, avec ce film.
Oui, oui, c'est de changer les mentalités, je sais pas, en tout cas, de continuer ce travail que je fais depuis que je suis gamin, c'est-à-dire j'ai un credo qui est la différence ne doit pas créer l'inégalité des chances. C'est-à-dire que voilà, grâce à ma maman, j'ai été baigné dans la différence. J'ai grandi ici et dès l'âge de 6 ans, on m'a fait comprendre que j'étais différent. Et ça fait plus de 40 ans que je me bats pour dire non, je suis comme vous. Voilà. Donc, je continue ce travail au cinéma, à travers les films. Voilà. Et puis, avec cette différences, j'espère parler de toutes les autres différences hommes-femmes. Aujourd'hui, il y a plein de clichés sur les blondes, sur les homos, sur tout ça. Alors, il faut mettre un coup de pied dans
le sablier. Belges.
Voilà. Oui, sur les Belges, il y a. Mais il se prête qu'un clan de Beche Flams aussi.
Oh,
il y a.
Oh,
il y a naturellement. C'est. Voilà, comme quoi tout est possible.
Alors, l'idée de ce couple noir qui adopte un bébé blanc, en même temps que l'actualité vous a donné l'idée à l'époque, c'était un couple de Nigérians, c'est ça qui avait donné naissance à un bébé blanc.
Oui, la conjonction de deux choses. J'étais tombé sur un fait divers, un couple de noirs, des Nigérians en Angleterre. militaire avait accouché d'un enfant blanc.
Oh,
donc je me suis dit, si les Noirs commencent à faire des enfants blancs, là, le monde est vraiment en train d'évoluer. Et parallèlement à ça, j'ai une mère qui est très antillaise, j'ai des enfants qui sont métis presque blancs. Donc je me suis dit, là, je vais pouvoir parler de filiation, de transmission. Et puis d'un autre côté, il y a une dame qui s'appelle Marie-Françoise Colombani, qui avait écrit un scénario il y a une quinzaine d'années, qui s'appelait Black Adoption, et elle n'arrivait pas à aboutir, faire ce film. Et donc on s'est réunis et on a travaillé, et puis j'ai fait Il a déjà tes yeux.
Et oui, voilà. Et vous avez sauté, vous avez sauté.
Le scénario.
On n'est pas là pour parler de Catherine Deneuve tout de suite. On va attendre un petit peu la fin.
Vous avez sauté à pieds joints sur ce scénario, ouais. Parce que vous vous êtes dit aussi, tiens, là, j'ai un point de vue. On comprend dans le film qu'il est drôle et cinglant, parce que notamment quand Aïssa Maïga, la maman, balade son bébé blanc, on la prend systématiquement pour une nounou, comme vous, on vous prend pour un agent de sécurité.
Ouais.
Donc il y a votre point de vue dans ce film.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que voilà. On est enfermé, voilà, préjugé. Voilà, moi je me bats contre ça. Combien de fois il m'est arrivé, et c'est vrai, vraiment, je suis pas en train de raconter des conneries. Combien de fois je suis arrivé dans des boîtes de prod et le temps d'enlever le casque, et boum, t'as un pli qui on te tend les mains avec un pli, tu fais c'est le huitième, et là tu fais non, je voilà. Ou dès que tu mets un costume, voilà, il y a toujours plein de blagues, mais on les trouve tous. Il y a des blagues sur les Belges, c'est ce fameux préjugé. Donc je dis aux gens, prenez votre temps, dites bonjour, on parle, et après on voit si le mec il est pizzaiolo, ou s'il est ingénieur, ou s'il est voilà, ou si la blonde, bah, elle a un bac plus 22.
Prenons voilà, justement est-ce que le cliché en humour, c'est pas aussi le début de la porte ouverte à discuter justement de tout ça?
Oui, et c'est pour ça que je fais ça, parce que justement le préjugé est tellement ridicule que du coup il donne lieu à toutes sortes de blagues, et on l'utilise, et je l'entends au quotidien, voilà, dans vos émissions, tout ça. Il faut essayer de se marrer avec tout ça pour se détendre et peut-être attaquer les sujets de fond un petit peu plus tard, voilà.
Et on va reparler de ce film, notamment des acteurs tout à l'heure, mais on distille le long de l'émission, on va pas tout donner d'un coup comme ça. Hein, il a déjà tes yeux, c'est le film de Lucien Jean-Baptiste, avec Aïssa Maïga, Vincent Elbaz qui a un rôle formidable, ouais. Il est vraiment à contre-emploi, on dirait un peu Pine d'huître. Il y a Zabou Breitman, ouais. Delphine Théodore, Marie-Philomène Nga, ouais. Baz Dem, Marius Benchafi et Michel Jonas. Vous êtes sur France Inter, si on écoutait de la musique nègre...
Because my heart is true, she said, baby, everything is alright.
Stevie Wonder, Uptight, Everything is Alright, n'est-ce
mais
pas
oui, Everything oh. is Alright.
On est bien, on est bien.
Le meilleur moment.
Charline Vanhoenacker.
Que je salue.
Alex Vizorek.
C'est quoi cette histoire? C'est.
Si tu écoutes. J'annule tout. Sur France Inter.
Nous sommes en compagnie de Lucien Jean-Baptiste et on va aborder avec vous ce premier sujet. Celui qui part avec classe, fidèle à son image médiatique, Barack Obama a prononcé son discours d'au revoir. Le bilan est cette fois définitif.
Il y a 8 ans, aux États-Unis, tout le monde se travaillait avec des armes. Guantanamo était encore en activité. Des Noirs se faisaient tuer par des flics blancs dans les ghettos, alors qu'aujourd'hui... Mauvais exemple, mais je veux dire, il a créé l'Obamacare. Ça, c'est bien.
Bah ouais.
Avant, aux États-Unis, quand un pauvre avait un cancer du foie...
Bah fallait vendre un rein, quoi. Fallait vendre un rein, puis tu regardes le prix d'un rein, mon gars, ça coûte un bras. Et bon,
c'était tout un bazar. Même les pauvres peuvent être malades, c'est plus un truc de riche. Voilà, c'est ce qu'on veut dire.
Voilà, c'est Thomas VDB et Mathieu Madénian. Qu'est-ce que vous allez garder, retenir d'Obama, vous, Lucien Jean-Baptiste ?
Je vais garder, retenir le fait qu'il a montré au monde et à pas mal de gens qui pouvaient en douter, eh bien qu'un homme noir peut être président des États-Unis. Voilà, ça c'est le plus important. Et puis montrer que dans un pays... quand même, il y a pas si longtemps, les noirs et les blancs pouvaient pas s'asseoir au même endroit. Eh bien, il y avait eu cette capacité à donner un espoir. Voilà, nombreuses personnes, que ça soit du côté des blancs ou des noirs, voilà, croire en ouais. un monde possible.
Mais ça vous suffit ou pas?
Non. Alors, voilà, c'est ce que je retiens. Ouais. Après, je retiens que c'est un Américain qui a fait ce qu'il a pu et que, comme tout homme politique, voilà, il sort en disant « Yes, we did » ou je sais pas quoi,
ouais, «
Calme-toi ouais. »« I did what I can, but I don't »
Mais il a fait ce qu'il a pu.
Voilà, petit swadard, mais voilà, c'est ce que je retiens et malheureusement, eh bien, on a fait un pas en avant pour deux pas en arrière, donc c'est pas grave, c'est le truc de Sisyphe, là, je sais pas l'autre qui monte.
Le Sisyphe, exactement, voilà, le voilà, mythe
on
de Sisyphe.
On est là-dedans, mais c'est pas grave, il faut continuer à pousser ce caillou. Jusqu'au Exactement. Bout, jusqu'à la fin des temps.
Mais enfin, Sisyphe, il n'arrive jamais. Hein.
Non, parce que. Ouais, mais il y a le fils de Sisyphe.
Ouais, c'est son fils.
Oui, voilà, qui.
C'est dans le deux.
Voilà, nous sommes tous les enfants.
Mais
de...
Sisyphe, c'est un peu la. C'est voilà. aussi la métaphore de la démocratie qui est perfectible, qu'il faut toujours.
Voilà,
faut toujours recommencer. D'ailleurs, il l'a dit dans son discours, Barack Obama, la démocratie est menacée chaque fois que nous la considérons comme acquise. Et oui. Il laisse toutefois un pays divisé, puis surtout, il laisse la place à Donald Trump. Ça vous, comment on arrive à conceptualiser oui. ça? On sort de 8
ans de Non, mais déjà, moi, il y a un truc que je comprends pas aux États-Unis, c'est cette histoire de suffrage universel. Là, il faut qu'on m'explique. Le peuple, enfin, il n'y a pas de suffrage universel, en fait. C'est une connerie. C'est
ah, vous voulez dire
électeurs,
le système des grands
mais
électeurs.
Oui, mais oui, j'en ai marre. À chaque élection, on nous balance. Ah, mais les gens ont voté pour machin et c'est l'autre qui est élu. Il y a un moment, il faut qu'ils règlent ce truc, quoi. Tu vois, c'est.
Il y a plus de 2 300 000 voix.
Voilà.
De plus pour Hillary Clinton.
Il faut arrêter avec ça parce que, enfin, bon, j'ai rien à dire aux Américains. De toute façon, ils font ce qu'ils veulent.
Si, ils nous écoutent.
Ladies and gentlemen,
ils écoutent tout le monde.
Non, mais c'est terrible. Non, ce pays avance lentement. Enfin bon, voilà, comme toutes les démocraties dans sur cette planète. Donc bon.
Et pendant ce temps, Donald Trump nomme son gendre conseiller spécial. Et on n'est plus du tout étonné. Quoi qu'il fasse, non, je veux dire, il peut nommer Mickey. ça semblerait c'est presque normal.
Mais il a le droit, ça, par contre, techniquement, de nommer
son Mickey.
Non, nommer Mickey. De nommer son gendre, on est d'accord, il a le droit.
Pour l'instant, il a le droit de tout. Après, il faudra...
Donc, le gendre, après... oui. Golden Shower, oui.
On n'a pas encore la vidéo.
Ah, attention, on attend.
On attend la vidéo.
C'est les Russes qui disent qu'il y a une vidéo.
Comme la vidéo de Balbuena aussi, on l'attend aussi. C'est peut-être... Ouais, ils sont ensemble, en fait. Ils sont ensemble. Balbuena sur Trump.
Arrêtez, on se fait les images.
Je comprends. Je comprends mieux pourquoi il n'a pas dit tout de suite.
Vous êtes sur France Inter. C'est l'heure de donner la parole à Pablo Mira, qui a reçu la semaine dernière le très convoité prix du journaliste de l'année, bravo Pablo, hein. Décerné par le prestigieux Pablo Mira Magazine. Vraiment, félicitations. Alors vous revenez aujourd'hui sur cette étude menée par l'Institut IFOP et qui montre que près d'un tiers des Françaises a déjà trompé son partenaire.
Un tiers, Charline, c'est exact. 33% de femmes qui ont déjà pratiqué l'adultère, c'est tout simplement terrible. Et croyez-moi, à titre personnel, j'espère que la main droite d'Alex Vizorek n'apprendra jamais ce qu'il fait parfois en cachette avec la gauche. Maintenant, voilà, cette étude relance quelque part le débat sur la monogamie. Alors, car après tout, moi, je défends l'exclusivité conjugale, mais avec un tel chiffre, on ne sait plus si c'est vraiment naturel de n'avoir qu'une seule compagne dans sa vie, voilà, un peu comme les cygnes, les tourterelles ou les fans du Seigneur des Anneaux. Alors, naturel ou pas, moi, ce que je constate en tout cas, Charline, c'est que pour la plupart des hommes, c'est un cauchemar, car il n'y a rien de pire que de subir l'adultère. Hein, pour nous, c'est un coup de poignard dans le dos, hein, un poignard qui rétrécit quand il fait froid et qui commence à sentir le crustacé aux alentours de midi.
Et quand... Vous pouvez développer.
Et quand... Non, j'irai pas plus loin dans cette métaphore. Et quand ça nous arrive, je peux vous dire qu'on a des réactions très violentes, d'abord des larmes et puis vient la dépression. Et puis c'est généralement là que le drame se passe avec la réécoute de Poetic Lovers sur Spotify. Hein, voilà, hein, Darling, faisons l'amour ce soir. Hein, tous deux, évidemment, émergés dans le noir. Et donc, toute cette souffrance, Charline, à cause de ces mesdames qui ne savent pas se tenir et trouvent toujours de faux prétextes pour tromper leur mari. Hein. Attention, hein, je ne suis pas en train de jeter la pierre aux femmes qui commettent l'adultère. Hein, ne mettons pas la charia avant les bœufs. mais j'en ai marre d'entendre des excuses bidons du genre gna gna gna, c'est à la mode, tout le monde le fait, gna gna gna, c'est ça être une femme libérée, ou encore gna gna gna, il me restait assez de place dans mon vagin. Dans un vrai couple qui s'aime, Juju, c'est sérieux tout ça, dans un vrai couple qui s'aime, on se jure fidélité jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et moi, ce que je déplore, c'est que trop souvent, cette mort, elle s'appelle Flavio, hein, et qu'elle soit bronzée toute l'année et qu'elle donne des cours de Zumba à votre femme. Après, soyons honnêtes, c'est peut-être aussi aux hommes hein, de faire attention aux moments fragiles dans la vie conjugale, dans la vie de couple, hein, car oui, c'est vrai, il y a des périodes où la pulsion d'infidélité peut naître plus facilement chez une femme, hein, la naissance d'un enfant, la crise de la quarantaine ou le visionnage d'un film avec Ryan Gosling alors que vous êtes en slip juste à côté.
Et en chaussettes.
Le contraste joue. Alors heureusement, moi j'ai la chance hein, de vivre une belle histoire d'amour totalement saine. Hein. Je sais que ma femme ne regarde pas les autres hommes et ma femme sait que je ne regarde pas les autres hommes, évidemment. Mais si contrairement à moi et à ma compagne, vous sentez que vous avez des doutes, ça peut arriver, hein, vous avez des doutes sur votre partenaire, et bien il existe des gadgets anti-infidélité pour vous aider. Mais bon, hein, le meilleur moyen de savoir si votre femme vous trompe, ça reste de lui demander de vous prêter son portable. Et vous pouvez avoir des soupçons si elle se met à suer comme Gérard Larcher après avoir monté une marche. Moi, je vais vous dire mon secret pour qu'une... Guillaume...
J'ai l'image.
Hein, je vais vous dire mon secret pour qu'une relation amoureuse fonctionne. Ah. Elle a besoin d'un ciment, et ce ciment, ça s'appelle la confiance. Vous m'entendez? A-R-G-E-N-T. Confiance, évidemment. Pour conclure, je dirais qu'en matière d'infidélité, le principal, c'est de résister à la tentation. Mais surtout, nous avons un devoir de vérité, un devoir d'honnêteté envers notre partenaire. Excusez-moi. Pardon, c'est mon pardon. Excusez-moi,
oui,
Charlie.
Je vous en prie.
Allô, chérie? Ouais, mais je peux pas te parler, là. Je suis au boulot. Oh bah avec les collègues on intervient sur un feu là. Oui, promis, je fais attention. Bah, je suis pompier, je suis pas kamikaze. Écoute, je te dis. Allez, je te laisse. Bisous. Excusez-moi, Charles.
Je
vous disais donc oui, la vérité c'est évidemment mieux.
Il faut couper normalement.
Oui, salut mon amour. Ah, non, je peux pas te parler là. Je suis en train de bosser. Oh bah pas grand chose là. Je joue contre Djokovic là. Tu me vois pas sur Eurosport? Mais je leur ai dit de bien filmer le cours aussi. Ce sont... Je te jure, ils vont m'entendre. Bon, je te laisse là. Il y a Novak qui va servir. Allez, bisous. Je vous disais, Charline, oui. La vérité. Allez, voilà, sache.
Merci. Pablo Mito sur France Inter. Pablo Mira. Lucien Jean-Baptiste est avec nous pour notre plus grand plaisir. On va aborder ce deuxième sujet. C'est l'ouverture des soldes. Et le journal La Croix consacre un dossier aux vêtements, une question éducative. Le vêtement dit des choses de nous. Il représente ce que l'on voudrait être.
Mais ma chérie, pourquoi t'as deux vestes?
Je sais pas.
Oh là 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 là, mais c'est ton chantier là qui te stresse, c'est ça?
Oui, ça me stresse. Ça me stresse. Faut que je sois à la hauteur.
Ouais, bah dans ce cas, ces vestes-là, faut que tu oublies. Hein. Enfin, à moins que t'aies envie de ressembler à Bernadette Chirac.
Non ! Angela Merkel !
Ah, alors, très bon exemple, Angela Merkel, ma chérie. Très bon exemple.
Valérie Bonneton, Guillaume de Tonquédec dans Fais pas ci, fais pas ça. Lucien Jean-Baptiste, première question pas évidente. Hein. Si vous ne savez pas répondre, attention, concentrez-vous. Si on observe votre manière de vous habiller quotidiennement, oui. Ça dirait quoi de qui vous êtes ou qui vous voudriez être?
Oh non. Moi, j'ai un problème. Vraiment, là, c'était super comme sujet parce que j'ai un vrai problème avec les fringues. J'essaye de m'en foutre et je n'y arrive pas. J'essaye de faire le mec. Tu sais, il y a plein de gens qui arrivent le matin, disent, ils sont super bien sapés. Tu dis non, mais moi c'est comme ça, mais c'est naturel. Mentent. Tu dis ah ouais, t'as passé 4 heures à t'habiller. Bon, ça c'est une chose. Après, moi j'essaye de me dire allez, tu t'en fous les fringues, la biffe est pas le moine, faut être cool, tout ça. Ben non, je passe 4 heures le matin, nanana, pour finir avec un jean, un pull. Bon voilà, je. Mais il est vrai que j'ai.
Oui, là on les sent pas les 4 heures là.
Ouais.
Même 2 heures, même 2 heures.
Détrompe-toi. Non, je te jure. Hey. Et,
c'est, made in France. Il porte du made in France.
Parce que moi on sent les 20 secondes. C'est bon, on les sent aussi.
Alors, une question, un thème qui n'est pas anodin, parce que moi j'ai remarqué dans votre film, Il a déjà tes yeux, je trouve que les vêtements disent beaucoup de choses des personnages.
Oui.
C'est volontaire, ouais. J'imagine bien. Ouais. Alors déjà, il y a votre couple avec Aïssa Maïga. Ouais. Vous êtes fleuriste, vous êtes très coquet, vous êtes hyper coloré, très tiré à quatre épingles, comme pour séduire l'institution qui doit vous confier un enfant à adopter. Mm-hmm. Ceux qui sont plus méchants, comme Zabou Breitman, sont en sombre, en strict.
Oui, bien sûr.
Style Angela Merkel, comme dans l'extrait qu'on a entendu. Et puis, il y a la famille sénégalaise d'Aïssa Maïga, la maman, dont le condé traditionnel, parce qu'il porte du wax, il porte les tissus africains.
Oui.
Tout ça, et puis il y a aussi Vincent Elbaz, qui est un peu le gars, un peu loser, comme ça, dans une espèce de chandail, et qui refait la maison équipée en slip.
En slip vert.
Donc ça, c'est très travaillé aussi.
Oui, tout est travaillé avec la costumière, effectivement, parce qu'il faut faire ce travail, parce que c'est vrai que pour les comédiens, c'est très très important. Une fois que tu as le costume, pour beaucoup de comédiens, une fois que tu as le costume, bam, tu as le personnage. C'est pas Juliette Arnault qui me contredira.
Mais non,
c'est
vrai.
C'est vrai que c'est un atout très important. Et moi, j'aime bien discuter longuement avec les acteurs et puis doucement avec la costumière. Et bien, les choses se construisent tranquillement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser au hasard parce que c'est un vrai support de jeu.
Clara Morgan disait la même chose.
Oui, absolument, absolument.
Et c'est vrai que dans le couple, il y a Marie-Philomène Nga qui est habillée donc en wax, en très coloré.
Oui,
puis il y a son mari
qui
est très traditionnel, qui refuse l'enfant ballant dans la famille, qui lui est habillé sombre, un peu terne.
Oui. Lui, il a deux costumes. Il habille un petit peu vieille France passée parce que lui c'est vraiment le personnage de la première génération qui est arrivé, qui a essayé de, entre guillemets, j'ai pas d'autres mots pour l'instant,
de s'intégrer.
Et il fait partie de ces mecs qui sont venus là au début, qui baissaient la tête, qui faisaient les chantiers, qui balayaient les rues et qui ont vraiment souffert et qui ont jamais pu repartir au pays, qui ont vu comment la situation s'est dégradée pour leurs enfants alors qu'ils sont venus pleins d'espoir. Donc c'est des mecs qui sont un petit peu à l'arrêt. Après ils retrouvent la tradition, bien quand il va à la mosquée ou lorsqu'il y a des fêtes. C'est des choses comme ça. Voilà, j'ai vraiment s'amusé avec ça.
Et donc, le vêtement a toute son importance, le costume dans le film de Lucien Jean-Baptiste.
Et au cinéma en général.
Oui, évidemment.
Mais le texte est très important aussi, évidemment. Fin d'émission. On vous propose toujours un sketch. J'avais envie de vous faire jouer un président américain parce que voilà, ça vous va comme un gant.
Oh yeah!
Donald Trump.
Ladies and gentlemen,
Donald Trump, qui a tweeté après les Golden Globes parce qu'il n'était pas content de ce qu'a dit Meryl Streep. On se rend chez lui parce qu'il regarde une autre cérémonie avec son épouse, Mélania,
oui,
Charline Van Hoenacker. On y va tout de suite.
Donc moi je suis président, c'est ça?
Voilà, Donald.
Donald, on regarde les Césars, mais alors tu tweets pas. Hein?
Oh darling.
Bon, ok, tu tweets pas trop.
Oh, mais de toute façon, Bob est là.
Oui, je suis là.
Qui c'est, boss Bob?
Je suis payé par la CIA, la NSA, le KGB pour surveiller M. Trump quand il tweet.
Mais parfois, je lui échappe.
Oui, j'étais aux toilettes quand il a écrit que Meryl Streep était surestimée.
Oh, ça, c'est pas très malin.
Mais je l'ai arrêté quand il a voulu écrire que Mère Teresa est une trainee.
Ah, it was a good job.
Yes. But, Mr. Trump, les gens lisent vos tweets.
No, you sure?
Yes, je crois, oui.
What this?
It is a César.
Is it a statuette?
Yes, César l'a sculpté, yes.
C'est très très vilain, il est surestimé ce César.
Oui, ça c'est vrai, même les Français le pensent, mais on ne le dit pas.
Et lui, c'est qui?
Le présentateur, c'est Jérôme Commander.
Je ne connais pas.
Vous n'êtes pas le seul.
Pourquoi personne ne le connaît?
Et malheureusement, il est sur Europe 1.
Ok, and this guy.
Oh, I love it is Jean-Paul Belmondo, et là on lui rend hommage.
Ok, je tweet qu'il est surestimé.
Non, tous les Français adorent Belmondo, il a joué dans des films de Godard.
Ok. Ok, je tweete que Godard est sous-estimé.
Non, même si c'est sans doute vrai. Oui, c'est vrai. Mais tweetez plutôt du positif.
Du positif?
Yes.
Excusez-moi, j'avais envie de changer d'accent. Oui. On parle du côté de Sophie Marceau, mec. Sophie Marceau, j'ai envie de l'attraper par le...
Non,
Will Smith. Non, il y a bien un film français qui vous a plu.
Yes, j'adore Les Bronzés 3. Je me reconnais.
Ah, yes, parce que...
Excusez-moi. Ça y est, on y est.
Donald, il est devenu fou. Parce que vous êtes bronzé, Donald.
Non, parce que comme Michel Blanc sur un malentendu, j'ai conclu avec les USA.
Oh, quel poète, Donald.
Oh, regarde. Regardez, il y a un sketch.
Oh, j'espère que c'est Kevin Gatt.
Ah, vous aimez?
J'adore le sketch sur les Chinois. J'espère qu'ils vont le faire les Mexicains.
Ah, évidemment, yes.
Je vais tweeter ça.
Non, posez ce téléphone.
Donnez-moi une seule bonne raison de ne pas live tweeter la soirée de César.
Parce que personne ne regarde la soirée de César.
Ah, ok, je vais live tweeter le Marseille à Las Vegas sur W9. J'adore.
Impeccable.
Lucien Jean-Baptiste, on sent...
W9.
On sent...
J'ai pas vu arriver celle-là.
C'est con.
On sent votre travail de doublage dans plein de films d'acteurs.
Ouais, mais c'est
particulier aussi, évidemment.
Oui, c'est vrai que bon, mais on entend souvent parler du doublage comme quelque chose d'annexe, tout ça. Pas du tout. Le doublage, plein de grands comédiens font du doublage. Pour être un bon doubleur, il faut être un bon acteur. Arditi, Rousseau, il y en a plein d'autres qui se donnent à ça. Et de plus en plus.
Même Francis Huster, il n'y a pas besoin d'être un bon acteur.
Oui. Et à l'égard des États-Unis, on prend de plus en plus de stars pour faire les doublages.
Bien sûr. Puis même dans les dessins animés, etc., ça devient.
Voilà, c'est un peu marketing, mais voilà, globalement, il faut être un bon comédien pour faire du doublage.
Pour terminer sur votre film, Il a déjà tes yeux, Lucien Jean-Baptiste, on y retrouve encore Michel Jonas. Qu'on retrouve comme fil rouge dans tous vos films, non ?
Ouais, mais c'est un kiff total. Non, c'est vrai, dans une première vie, avant de faire comédien, je faisais du merchandising, je m'occupais des produits dérivés des artistes. Et Michel a été le premier client, voilà. J'ai vendu ses t-shirts et j'étais complètement fan de Michel. Et la chance que j'ai, c'est que c'est un super comédien.
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme produits dérivés de Michel Jonas ? Il y avait des mugs.
Justement, à l'époque, il était très difficile, il voulait pas trop de choses. Donc, on a essayé de faire des produits assez classe.
Voilà. Merci Lucien Jean-Baptiste, il a déjà tes yeux, avec vous, avec Aïssa Maïga, Vincent Elbaz, Zabou Bretman, Michel Jonas, Delphine Théodore, Marie-Philomène Nga, Bazdem et Marius Ben Chenafi.
Parce que ce petit garçon tout blond, tout beau, aux yeux bleus, a comme deuxième prénom Nordine, et oui, la France est belle mes amis.
The people had the right to control their lives and to control their destinies.
You can beat me or jail me. Or even kill. But I'm not going to be what you want me to be.
Freedom, I gotta stay free. I gotta stay free.
On ne les voit pas là où on passe de branche en branche. Ils veulent que nos vies se déplacent en rang. Surtout pas que leur et nos mômes dansent ensemble. Le pire s'amourache et se fréquente sans soupir.
Ils prennent nos grosses basses pour des tambours de guerre. Alors ils nous la font perchés sur le mic, on observe et ça les énerve. Tout ce qu'ils attendent c'est qu'on nous muselle et qu'on rentre dans leur rang si possible à grands coups de paix.
Tu sais je vis de petits riens. Leur gueule de petit saint veulent que moi le petit singe devienne un petit chien. Alors qu'ils fassent le beau, donnent la patte et la ferme sans dire un mot, ils rapportent leur balle.
Est-ce nos écrits qui gênent? Est-ce une question de gêne? Une culture indigène qu'ils voient comme une chose indigeste. Non désolé, y a pas de gaine sous ma veste. Juste un cœur qui bat, qui ne veut pas qu'on le prive d'oxygène.
En volant des 4x4 avec des grosses basses dans le coffre. On est ces bêtes à 4 pattes qui font changer les modes. Si on voulait, on pourrait même faire pencher le vote. De cette jungle, on irait jusqu'à fissurer le socle, ouais.
Ton fils aime nos sons de macaque. Ta fille aime nos sons de macaque. Leurs potes aiment nos sons de macaque. Alors mange-toi du gros son de macaque.
Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane.
Comme un cerf-volant, on veut prendre les airs. Ici pas trop souvent, on nous somme de nous taire. Ouais, mais ça on sait pas le faire, ça les fout en colère. Alors leurs médias s'en prennent à nos sœurs et nos frères.
À l'époque on était ces ados dans le métro, sautant les tourniquets. On a tué des guns, n'a pas tout niqué. C'est juste qu'on était jeunes, sauvages et libres. Nos cris résonnaient dans le quartier.
Laisse-moi te dire que nos vies c'est pas de l'eau de coco, poteau. Beaucoup voudraient bien nous attacher au poteau. Poteau, face à leurs bêtises, on brandit le stylo. Oh oh, on dirait que ça va pas s'arrêter d'aussitôt.
Coco, on change l'ordre établi, désarmé. Les mots, la mitraille franche. Pas de tape à l'œil, rien qu'une paire de Nike blanches. Qui va casquer l'addition des pots cassés. Diamants de Bokassa, eux se sont déjà placés.
Ils disent y'a trop de Zoulous sur les ondes. Trop de gars qui dropent des rimes comme ils dropent leurs bombes aux quatre coins du monde. À chaque seconde un gosse tombe et leur compte grossit. Oui, tout a un prix, freedom, démocratie.
Ton fils aime nos sons de macaque. Ta fille aime nos sons de macaque. Leurs potes aiment nos sons de macaque. Alors mange-toi du gros son de macaque.
Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane. Ouais, c'est moi le macaque, le hip-hop et ma liane.
Freedom, I gotta stay free.
Monnaie de singe par IAM avec la programmation musicale de...
Monsieur Tchoubaka.
Il est l'heure du moment Meurice, Alex.
La France s'arrête, la France a peur. Guillaume Meurice se rend sur les lieux où l'histoire se fait. Il est allé à la manif anti-IVG.
Bah écoutez, oui, je suis content parce qu'on avance. On avance bien dans la société, là. On est en 2017 et hier, des gens ont manifesté contre l'IVG. Ah, ça fait du bien d'avancer, ça fait du bien. On a hâte qu'on débatte enfin de la place des femmes en général dans la société. Hein. Est-ce qu'on doit leur laisser présenter une émission de radio, par exemple, hein, surtout quand elles trouvent que Manuel Valls est un beau gosse. Voilà, je pose la question. En attendant, procédons peut-être étape par étape, si vous le voulez bien. Hier, c'était donc contre l'avortement. Belle manif hier, qui s'appelait la marche pour la vie. C'est beau, hein, ça c'est beau, la marche pour la vie. On dirait un mélange de Christophe Maé et de Emmanuel Macron. Mais il y avait une autre ambiance, ça c'était un autre projet. Excusez-moi. Par exemple, il y avait un dress code assez particulier. Explication.
Aujourd'hui, le dress code, c'était couleur qui jure.
Couleur moche, quoi, en fait.
Oui, voilà.
Pourquoi faire une manif en couleur moche?
Pour montrer une opposition, mais du coup, moi, j'ai sorti les chaussettes.
Voilà. Ah oui, des chaussettes moches.
Qui jure.
Et moi, je jure que ce type de fringue est réservé normalement aux gens qui construisent des routes, hein, ou à Alex Vizorek quand il choisit ses chemises avec son copain daltonien. D'ailleurs, tout le monde ne respectait pas ce dress code. Hein. Par exemple, ce monsieur, pourquoi ?
Je suis religieux et donc j'ai un habit religieux. Je m'habille toujours en habit religieux.
Oui, il n'y a pas de soutane rose fuchsia, quoi.
C'est ça.
C'est dommage, ça. Pourquoi il n'y en aurait pas, d'ailleurs ?
C'est comme ça.
Mais moi je trouve ça dommage, et je crois pas d'ailleurs que dans la Bible c'est marqué qu'on oblige les curés à s'habiller en robe, hein. Petit coquinou les curetons quand même au passage, hein. Et cette petite allumeuse de pape François soutenait la manifestation, il l'a dit publiquement, car tout le monde était là avant tout, je le dis, pour aider les femmes en difficulté, comme ce monsieur qui n'était pas très content.
On ne fait rien pour aider les femmes qui sont en difficulté et qui aimeraient garder leur enfant.
Mais il y a aussi des femmes qui veulent avorter, qu'est-ce que vous en pensez de celle-là?
Ben ça, je ne suis pas là pour juger.
Voilà, donc quelqu'un qui veut avant tout aider les femmes et qui n'est pas là pour juger, un point de vue modéré, je dirais, qui fait plaisir. Donc j'ai poursuivi avec lui, on reprend.
Je ne suis pas là pour juger, mais il faut reconnaître qu'un avortement, c'est un meurtre. Bon, il y a d'autres meurtres.
Ben là, ça ressemblait à un jugement quand même.
C'est pas un jugement, un meurtre, c'est un meurtre. Ça, c'est quelque chose de... Il n'y a pas besoin de juger pour le savoir.
Ah oui, ben alors du coup, vous la jugez meurtrière.
Eh ben oui.
Ah ben oui, mais comme tu disais l'inverse deux phrases avant, ben c'est compliqué de te suivre. Alors c'est une manière de pas juger un petit peu particulière. Moi, sans le juger, je pense que ce monsieur dise de la merde. Ah voilà, mais sans jugement, attention, en toute objectivité bien sûr. Simplement, factuellement, faut le dire, beaucoup de femmes meurent à cause des avortements illégaux dans certains pays. Alors ce monsieur pensait aux femmes, cette femme pensait, elle, aux enfants.
Finalement, ce sont des milliers d'enfants qui n'ont pas le droit de vivre, qui sont considérés comme inexistants, comme...
Vous pensez qu'ils souffrent, ces enfants qui n'existent pas?
Bah, évidemment.
Bah, bien sûr, on a une pensée pour tous ces enfants qui n'existent pas, hein, pour ces demi-enfants aussi, hein, qui terminent dans un sopalin ou une vieille chaussette qui traîne au pied du lit. Hein, Alex, hein, Hippolyte, on a tous connu ça. On a tous voulu faire des enfants à la page lingerie du catalogue de la Redoute, mais sans succès. Hein. Peut-être qu'elle n'avait pas d'âme, cette page lingerie, parce qu'il paraît que tout ce qui vit possède une âme. Et coup de bol, alors à coup de bol, j'ai rencontré un spécialiste de l'âme. Est-ce qu'un fœtus a une âme?
Est-ce qu'il a une âme? Oui, il a une âme. Puisqu'automatiquement, l'âme, c'est le principe organisateur de la matière. Toutes les cellules ont une âme.
On est sûr de ça?
Ben oui, l'âme, il y a une âme humaine, une âme animale, et j'ai même une âme minérale.
Un caillou, ça peut avoir une âme, par exemple?
Ben, c'est une âme de caillou.
Oui, je suis con aussi. Pourquoi je pose des questions? Alors, une âme de tractopelle, si vous êtes un tractopelle, ça marche aussi, ou de chaussettes, ou de chemise de visorelle, tout ce que vous voulez. Mais essayons de répondre quand même à la question, peut-on tuer l'âme d'un caillou?
En tant que oui, si vous le cassez, il n'y en a plus.
Si on le casse, il y en a deux?
Si vous voulez, mais c'est plus la même.
Est-ce que ça donne deux cailloux avec deux âmes différentes, du coup? C'est compliqué, l'âme.
Non, c'est pas très facile.
Bah, c'est pas facile à piger, mais en tout cas, maintenant, faites gaffe quand vous marchez sur du gravier. Hein, pensez aux millions d'âmes de cailloux que vous piétinez. C'est un véritable crime contre l'humanité, la minéralité, si vous voulez. Voilà. Alors, il y a un autre truc qui est pas facile à piger. Dans tous ces gens qui défendent, donc, selon eux, la vie, bon nombre sont pour la peine de mort, hein, n'est-ce pas, madame?
Oui, on peut le dire.
Alors, est-ce que c'est pas paradoxal de défendre la vie et de défendre la peine de mort?
Non, je ne crois pas, parce que dans certains cas, il faut prendre des moyens pour protéger la vie présente et qui est vécue positivement. Il faut s'organiser socialement pour la préserver.
Ah oui, mais là, si on l'organise socialement pour la préserver en tuant la personne, on préserve pas vraiment la vie, du coup.
Oui, certes.
Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Voilà, c'était Guillaume Meurice en direct du Moyen-Âge. Rendez-vous la prochaine fois pour notre dossier complet « Bien choisir sa ceinture de chasteté ». À vous, damoiselle Charline.
Merci, mon bon. Bonjour Aïssa Maïga.
Bonjour.
On vous entend beaucoup, on vous voit partout, mais c'est avec un grand bonheur. Et c'est pour deux super films. On va parler du deuxième, de Corniche Kennedy. Mais oui, mais alors, je vais vous dire. Il a déjà évidemment, ses yeux de Lucien Jean-Baptiste, qu'on a beaucoup aimé. Et la Corniche Kennedy de Dominique Cabrera, adapté du roman de Maïlys de Kerangal, est déjà en salle. On peut le voir depuis mercredi dernier. Alors, il s'agit, je vais vous résumer un petit peu l'histoire pour vous situer. Un groupe de jeunes ados marseillais, issu de milieux plutôt populaires, qui passe le temps à se lancer dans le vide, dans l'eau, je vous rassure, depuis la corniche, sur fond de milieux criminels. Vous jouez un capitaine de police qui les tient à l'œil, qui les voit évoluer, parce qu'elle veut serrer un gros dealer. J'espère que j'ai déjà un peu bien résumé la chose.
Parfaitement bien.
À la fin, il se passe quoi ?
Ah ben rien. Ce film, qu'est-ce qu'il choisit de raconter de cette jeunesse marseillaise ? Parce qu'ils sont vraiment, ces jeunes sont vraiment mis en avant par rapport au texte original. On va en parler avec Hippolyte Gérardo, qui connaît bien le texte aussi de Maïlys de Kerangal. Qu'est-ce qu'il choisit de raconter de cette jeunesse marseillaise, de cette jeunesse de France finalement ? Parce qu'il y a un versant assez solaire, très positif, assez souriant.
Oui, Dominique Cabrera, la réalisatrice, enfin, je suis une grande admiratrice de son travail, a choisi de s'immerger pendant 2 ans à Marseille. Elle est parisienne, enfin, elle habite à Montreuil plus exactement. Ah. Et en fait, pendant 2 ans, elle a déménagé et elle a vécu au contact de ces jeunes. Elle n'a pas seulement vécu auprès d'eux, elle les a entraînés dans le monde du travail, du cinéma, en les coachant pendant 2 années avant le tournage. Donc elle s'est immergée dans le milieu.
Et à Marseille d'ailleurs.
À Marseille, elle a vécu près de la corniche. Elle a vraiment fait un travail hallucinant. D'abord d'imprégnation du réel, mais j'arrive pas du tout à articuler moi aujourd'hui.
Oh, prenez votre temps. C'est le tour de chauffe.
Et elle a réussi vraiment à les aider à devenir des comédiens, à devenir acteurs. Et moi, je les ai rencontrés quasiment au début du tournage et ils étaient tous hyper prêts, hyper entraînés, complètement imprégnés de leur personnage. Enfin, moi, j'ai pas eu affaire à des débutants. J'ai eu affaire à des gens qui démarraient, mais qui étaient déjà parfaitement...
Et c'est vrai qu'ils sont bluffants. Ouais. On va les citer. Hein. Il y a Lola Creton, il y a Kamel Kadri, et il y a Alain Demaria.
Oui, sachant que Lola Creton, c'est une actrice professionnelle. Comme on dit. Ouais. Et Alain Demaria, qui joue le rôle de Mehdi, qui est le blond du film, et Mehdi et Kamel Kadri.
Ouais.
Voilà. Enfin, sont tous les deux... ils sont tous très, très attachants, d'abord parce que le film est très sensuel. Vraiment, on a l'impression de respirer avec les personnages. On est dans leur... je sais pas comment dire, dans la vibration de leur jeunesse, quoi. Il y a quelque chose qui nous parvient comme ça, de façon très brute. Le film est solaire, on est dans Marseille avec cette luminosité qui est très forte. Et puis bon, le film commence sur un saut du haut de cette corniche que je connais très bien. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je vais à Marseille, mais jamais de la vie. Jamais je saute de là. Je ne sais pas comment ils font. Et Dominique les a découverts là. Elle n'a pas eu besoin de faire son casting. Elle est allée sur la corniche pour commencer à observer. Elle fait aussi du documentaire, Dominique. Donc, elle sait capter le réel. Donc, elle s'est rendue là-bas. Puis, elle a commencé à engager un dialogue avec ces jeunes. Puis, elle s'est rendue compte que c'était eux. Donc, elle en a embauché quelques-uns dans un atelier de théâtre. Ils ont suivi des cours pendant 2 ans. Et puis, les personnages sont apparus... comme ça, presque naturellement.
Voilà, c'est Corniche Kennedy, déjà en salle, de Dominique Cabrera, avec évidemment Aïssa Maïga, on va en reparler. Premier sujet avec vous. Benoît Hamon sort vainqueur du premier tour de la primaire. Il a séduit les militants, la jeunesse. Il emballe sec, le Benoît. Écoutez la réaction de la rue de Solferino, qui semble déjà vivre une nouvelle vue. C'est Solferino, comme ça boutille.
À l'orange, je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin.
Voilà ce que dit Solferino, Benoît Hamon, Françoise Hardy bien sûr. Alors, les militants ne semblent pas avoir fait le choix d'un leader, mais d'un homme qui a des idées, en tout cas les plus neuves, semble-t-il, sur le papier. Ce résultat, il est de nature un petit peu à vous réconcilier avec la politique, ce côté un peu utopique, Aïssa Maïga. Quel regard vous avez sur...
Je crois qu'on en a un petit peu besoin. Enfin, moi, je fais partie d'une génération à laquelle on a toujours dit qu'il ne fallait surtout pas rêver, à laquelle on a dit que de toute façon, c'est la crise, on allait galérer. Et je pense qu'on a quand même... La politique, ça doit aussi incarner les idéaux. Et on a été un petit peu déçus, je pense, mais de part et d'autre. Je pense que toute la France est un petit peu morose par rapport à... Mais ma réponse est très très longue, vous avez compris ce que je voulais dire.
Ah mais non, mais tout à fait, bien sûr, parce que j'allais vous dire, c'est dans l'édito de Libération qui résume le duel Valls-Hamon en disant « c'est la gauche qui gère contre la gauche qui rêve ». Donc vous rêvez, vous avez envie de rêver aussi.
Non, je n'ai pas simplement envie de rêver, j'ai aussi envie d'avoir, l'occasion un jour dans ma vie de voir des politiques qui arrivent à insuffler quelque chose de nouveau, qui arrivent à nous faire sortir de la crise financière, de la crise des idéaux. Et voilà, j'espère que je vais vivre ça un jour, mais je ne sais pas si Benoît Hamon incarne ça véritablement pour moi.
Aïssa Maïga est avec nous et en face de vous, il y a Hippolyte Girardot.
Ah oui, oui, tout à fait, Aïssa. Bon ben alors, Aïssa.
Oui.
Voilà, je vous...
Il se met une branche de lunettes dans l'œil déjà.
Aïssa, reine de nos écrans pâles et blonds, désirable déesse de nos vies soumises, Aïssa, bienvenue. Impossible de ne pas voir dans votre présence aujourd'hui un signe des puissances occultes, mais éclairées, qui viennent nous guider dans ce temps incertain qui a commencé à Washington. Sa playlist Spotify était top. Il avait un sourire d'enfant. Il dansait divinement bien. Il était élancé comme un joueur de basket. Et si sa maison était blanche, il y avait invité des tas de gens de couleur à venir chanter, parler et jouer. Et surtout, surtout, il adorait sa femme, qui lui avait donné deux filles splendides et intelligentes. Cet amour sincère et pur, cet amour quasiment d'adolescent, cette façon délicate de prendre la main de sa femme qui portait un prénom d'homme, ce sourire éclatant qui répondait au sien, cette humilité qu'il avait dans le regard quand il était face à elle, comme s'il la remerciait d'être là, d'être vivante et belle, forte et câline, d'être à elle seule toutes les femmes du monde pour lui, cette façon d'être un homme, c'était inoubliable et on l'a aimé pour ça. On l'a admiré au-delà du raisonnable, oubliant que sa position éminente de chef du pays le plus puissant du monde l'obligeait de faire la guerre, de tuer d'autres hommes qui aimaient aussi leurs femmes et leurs enfants et qui aussi peut-être savaient danser avec grâce. À le regarder ainsi, mari aimant et père attentif, respectueux de ses femmes, on fermait les yeux sur le côté obscur de l'Empire. Surtout que Dark Vador était déguisé en blond. Blond, blanc et blond. Je ne vais pas lister le nombre de raisons de le combattre. C'est une petite chronique et pas une conférence TED, me dit Alex, et il a raison. Mais juste rappeler que la façon dont cet homme traite les femmes, par la parole et par le reste, est un retour au paléolithique. Et d'ailleurs, on ne s'y est pas trompé, et pas de jeu de mots là-dessus, puisque la véritable manifestation politique contre son arrivée n'a pas été celle d'un mouvement écologiste, pas celle d'un mouvement socialiste, pas celle d'un mouvement mexicain, mais a été la grande marche des femmes. Parce que oui, aujourd'hui, nous sommes tous et toutes des femmes attrapées par la chatte. Et pas seulement par Dark Blond Vador. Ici aussi, il y a des blondes déguisées en femmes, en hommes en cravate avec des gros sourcils, des ministres qui se demandent toujours qui va garder les gosses. Parce que c'est du costaud se tournant sexiste. Et là, il va falloir rendre coup pour coup. Et dans ce contexte, une de nos championnes, notre meilleure championne, notre boxeuse number one, c'est vous.
Ah bon ?
Votre carrière comme comédienne noire francophone est à chaque fois une source de joie, même s'il s'agit d'une carrière de comédienne noire francophone. Parce qu'on peut dire que vous accumulez les handicaps, vous. Dans les trois qualificatifs, en fait, c'est surtout francophone qui pose problème. Mais oui, femme, bon, ok, ça, c'est pas facile, mais comme vous êtes payé deux fois moins que les mecs, en fait, on veut bien vous donner des rôles, c'est pas compliqué. Noir, mais noir, pourquoi pas? Du moment que vous nous faites rire, que vous portez de temps en temps un boubou, ou alors vous venez nous parler du continent africain, de sa misère, après tout. Pourquoi pas? Mais française, ah, ça c'est un problème, ça c'est pas évident du tout. Parce qu'en fait, on n'a pas de tradition de personnages de femmes intéressantes et noires dans le cinéma national. Je fais même pas la liste, tellement c'est déprimant, même pas. Alors qu'on a des personnages de femmes noires et puissantes, comme dirait justement Marine Day. En politique, Christiane Taubira, Ramayad ou Paulette Nardal, qui fut la première étudiante noire à la Sorbonne. Formidable histoire. En écriture, Marine Day est déjà citée, Marie Scondé. En sport, Marie-Josée Pérec, Surya Bonaly. Et même dans l'espace, avec une astronome fantastique qui s'occupe des déchets qu'on envoie nous-mêmes dans l'espace, qui s'appelle Fatoumata Kambe. Mais on n'en fait pas des rôles au cinéma. Et d'ailleurs, si on le faisait, on les prendrait plutôt blanches. D'ailleurs, même tant qu'à faire, on prendrait des hommes, ce serait beaucoup plus simple. Pour ça, une fois de plus, et c'est pas la première et pas la dernière fois que je le dis dans cette émission, la seule solution, c'est la révolution. Et pour ça, Aïssa, on compte sur vous.
Nous sommes en compagnie d'Aïssa Maïga et on va vous soumettre ce deuxième sujet. La mairie du 18e arrondissement de Paris en avait assez de voir vivre les bobos juste à côté de familles immigrées sans les voir se mélanger. Alors à la prochaine rentrée, là, en 2017, septembre, eh bien la carte scolaire sera cassée pour favoriser la mixité, le mélange dans les écoles. Les bobos craignent pour l'éducation de leurs enfants. Ils seront scolarisés dans le réseau d'éducation prioritaire renforcé. Tiens, ce témoignage d'un prof qui assure le succès même en venant en renfort, comme ça.
Et je commence à donner cours à tout le monde, de la sixième au terminale. J'ai dit, ok, vous voulez faire quoi? Vous voulez faire du skate? Vous allez me créer la meilleure rampe de skate? Il y a Tony Hawk, pour te dire, Tony Hawk, le champion du monde, il est arrivé, il a vu l'état du truc, il a fait, voilà, je te le dis, c'est la meilleure rampe que j'ai vue de toute ma vie. Je dis, bah, tu peux remercier les troisièmes techno. Voilà. Pythagore disait pas que des conneries. En maths, je les ai coachés pendant 6 mois. Il y en a qui ont été pris dans l'équipe de France de maths. Et un jour, je suis en cours de propulsion. J'animais le cours, tu vois, c'est un cours que j'avais inventé. Il y avait le gars, mec, en cours de propulsion qui prend le truc, là, le propulseur. Il écrit, Serge, on t'oubliera jamais, frère, avec le propulseur. Kamas. Et la phrase était tellement longue, il s'est pris un immeuble et il est mort.
Serge le mytho, alias Jonathan Cohen. Alors voilà, d'un côté, il y a ce quartier bobo avec des loyers plus élevés. Il faut traverser le boulevard Barbès et puis il y a la Goutte d'Or. C'est un article à lire dans M Le Monde. Et les parents du quartier bobo rechignent un petit peu à envoyer leurs enfants dans cette école du quartier de la Goutte d'Or. Ils doivent rentrer en CP à la prochaine rentrée. Aïssa Maïga, quand on a des enfants, est-ce qu'on doit parfois s'asseoir sur ses convictions politiques? Et c'est pas toujours, on n'est pas toujours en accord entre ses convictions politique et l'éducation qu'on veut pour ses enfants.
Ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé. Je ne vais pas raconter ma vie ici, mais un tout petit peu quand même, avec mon fils qui avait un peu de mal dans, voilà, avec l'école. Mmh. Et j'ai choisi volontairement de le mettre dans un, de l'exfiltrer et de le mettre dans un autre quartier qui n'était pas un quartier hyper bourgeois pour autant. Mmh. Mais je sentais que pour lui, c'était nécessaire de changer d'environnement. Donc moi, je peux comprendre, je ne suis pas là pour jeter la pierre, je peux comprendre la crainte de parents, mais pour autant, j'ai vécu, moi-même, j'ai été élevée hein, dans des quartiers hyper mélangés, où il y avait des pauvres, des moins pauvres, des noirs, des blancs, des arabes.
Ah. Ouais, là, non, c'est pas le débat, ça c'est trop complexe. Ça.
Et voilà, je m'en sors plutôt bien, mais ce que je trouve un tout petit peu, parce que je connais un peu la Goutte d'Or, ce que je trouve un petit peu, comment dire, limité, c'est l'idée de se dire qu'il suffit de mélanger les gosses à l'école pour que tous les problèmes soient réglés. Parce que, par ailleurs, moi je connais des gens qui sont des travailleurs sociaux, qui travaillent à la Goutte d'Or, dont on coupe tous les budgets. Ils n'ont plus d'argent pour travailler alors que ce sont les derniers remparts, enfin les dernières personnes présentes pour permettre à des gosses qui n'ont absolument rien, qui n'ont accès à rien en dehors de leur quotidien. Mmh. Ce sont les dernières personnes qui sont capables de ça et eux-mêmes qui sont hyper convaincus, qui sont hyper dynamiques, se demandent s'ils vont pouvoir continuer à travailler dans ces conditions-là. Mmh. Donc pour moi, le problème, il n'est pas uniquement à l'école, mais ces quartiers-là doivent être envisagés dans une globalité. Mmh. Et les parents également doivent faire l'objet d'action pour pouvoir eux-mêmes s'en sortir, parce que le taux de chômage est extrêmement élevé. Donc, je dis les choses un peu en vrac, mais tout ça pour dire que l'école ne peut pas être le seul endroit.
Ne peut pas tout résoudre. Voilà. Ouais. Même si c'est un point de départ, peut-être, parce que les parents, important. Ils se rencontrent entre eux, et c'est comme ça aussi qu'ils deviennent potes et que le tissu social se tisse. Alex, comme on fait une petite pause syndicale avec le florilège de l'émission...
Mais oui, déjà dire qu'on revient demain.
On revient demain en direct, mais justement, pour se faire pardonner un petit peu...
Cerise sur le gâteau, le Frédéric Fromet.
Bien bonjour, je me suis préparé à soutenir François Fillon dimanche au Trocadéro.
Ah, nous aussi.
Ami, entends-tu la colère du peuple de droite ? Tout Le monde déteste la justice. Ami, viens prier pour Saint-François de sa blessure Sarthe. Aucune hésitation. Oui, oui, oh, détournement de fond. Oh, et partisans, Pénélope, Marie et Charles, c'est l'alarme. Les juges bientôt connaîtront le prix du sang et des larmes. Moins de tribunaux et plus d'abus sociaux. Nous sommes fiers des magouilles financières. Emploi fictif, ouais, ouais. Amis, ce sont les présidentielles qu'on assassine. On veut nous priver d'un concours de casseroles avec Marine. Qui ne fraude pas n'est pas français. Hey, oh ouais, c'est un complot, c'est une quasi-guerre civile. Tremblez, journaleux, bande de fouilles, merdes indociles. Le canard enchaîné, c'est nous qu'on va te plumer. Moins de griefs, plus de routelles griefs. On veut pouvoir voter pour ceux qui nous volent notre flouze. Balkany, avec nous, Balkany, avec nous. On a même un type chez LR qui s'appelle Pierre Lelouch. Il y a des pays où les gens pour un rien démissionnent. En Suède, une ministre a dû partir pour un Toblerone. Fillon, tiens bon, c'est pas la corruption, pas les malversations, c'est l'exemplarité qui ruine la société. Fillon, c'est notre sauveur, notre général de Gaulle. Mais v'là que la main quasiment dans la caisse, on le gaule. Abat, abat, abat la probité. Voici la morale, ami des Républicains ou du FN. Et si nous étions semblables à la mafia sicilienne?
Merci Alex.
Mais merci Charline, on revient demain.
Et bien sûr, et là, moi, nous serons en direct. Ah. Pour ne rien rater de cette folle période électorale, on est chaud bouillant
jusqu'au bout.
Demain, on sera en compagnie d'Augustin Trapenard.